La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, philosophie pratique et philosophie spéculative ne font qu'un en philosophie réaliste. Nous alternons donc de mois en mois la philosophie spéculative, c'est-à-dire l'être est fait pour être connu par l'intellect, et la philosophie pratique que nous avons abordée à travers l'art, aujourd'hui à travers l'éducation. L'éducation, pourquoi commencer l'année 2021 par l'éducation? Au moins pour deux raisons. Le discours du pape François, prononcé le 8 décembre à propos du soin, ce qu'on dit aussi être le care. Il met en lien le soin avec finalement la dimension sociale. Et par quel biais le fait-il? Par l'éducation. On ne peut pas prendre soin de la planète sans prendre soin du frère. Et ce qui permet de prendre soin du frère, c'est l'éducation. Deuxième raison, pour commencer notre année par une réflexion sur l'éducation, c'est tout un discours de philosophie contemporaine qui favorise l'éveil de la sensibilité. Je vais citer trois philosophes actuels, contemporains, Vinciane Després, qui représente ce courant, à la suite de Bruno Latour, elle place dans la voie moyenne le pivot d'un nouveau rapport de l'intention à l'action et de l'intention à la perception. La voie moyenne, dit-elle, c'est cette forme grammaticale par laquelle on ne peut plus distribuer aussi clairement l'activité et la passivité, et que l'on fait perdre au jeu percevant son privilège d'initiative, qu'on le décentre littéralement au profit de l'obéissance à la demande des choses d'être intensément et longuement senties et goûtées. On le voit, le sujet n'est plus un sujet agissant. L'homo faber est assimilé au colon, à l'homme qui va détruire la planète parce qu'il ne va penser qu'à l'exploiter. Et finalement, derrière l'homo faber qui va être aussi un architecte, un homme intelligent qui gère, il y a un procès fait à l'intelligence. Intelligence et sensibilité sont-elles donc irréconciliables? Faut-il parler des jacuzzis de l'altermondialisme, c'est-à-dire une sorte de passivité où l'homme devrait redécouvrir plusieurs natures au lieu d'une nature essentialisée comme le propose Baptiste Morisot dans son livre tout récent publié en 2020, La crise écologique comme crise de la sensibilité. Une dernière citation d'un autre sociologue, philosophe, biologiste, Yves Christen, pour qui l'animal est un individu de droit. Comment expliquer, dit-il, que les philosophes de l'altérité comme Paul Ricoeur ou Emmanuel Lévinas aient été comme incapables de donner à l'animal la place qu'il mérite? La qualité d'autre serait-elle réservée à l'homme? Dans cette nouvelle philosophie, cette nouvelle manière d'être, où finalement on dit que le couple nature-culture est complètement aboli au profit simplement d'une nouvelle sensibilité, d'une sorte de différence graduelle et non d'un saut de qualité entre l'homme et l'animal, cette différence graduelle qui rapproche l'homme de l'animal et qui fait que l'homme est intégré dans la chaîne des vivants sans autre capacité sinon sa sensibilité. Comment donc, dans ce nouvel horizon de pensée, situer l'homme par rapport à ce qu'il est dans la philosophie réaliste, c'est-à-dire qu'il a en commun une nature avec le Zoulou, l'Inca, le Toltec, l'Aztèque, l'homme de moins 8000 avant Jésus-Christ ou l'homme de plus 4000 si nous y arrivons après Jésus-Christ. Je donne la parole tout de suite à Jacques Maritain dans son livre « Pour une philosophie de l'éducation » publié en 1969, alors qu'il est ici à Toulouse et qu'il partage la vie des petits frères de Foucault dans des cabanes en bois à côté du couvent des Dominicains de Rangueil. Il publie ce recueil qui est lui-même une compilation de plusieurs textes. Le souci de l'éducation est très présent dans sa philosophie. Maritain n'est pas du tout un philosophe dans sa tour d'ivoire, c'est plutôt un philosophe dans la cité qui aborde les questions contemporaines avec foi, rigueur, logique et un credo que l'on sent dès ses premières lignes, donc de « Pour une philosophie de l'éducation ». Voici. Beaucoup de nos contemporains connaissent l'homme primitif ou l'homme de l'Occident ou l'homme de père industriel ou l'homme criminel ou l'homme bourgeois ou l'homme prolétarien. Mais ils se demandent ce qu'on veut dire quand on parle de l'homme. La tâche de l'éducation n'est évidemment pas de former cette abstraction platonicienne qu'est l'homme en lui-même, mais de former un enfant déterminé appartenant à une nation donnée, à un milieu social donné, à un moment historique donné. Néanmoins, avant d'être un enfant du XXe siècle, un enfant d'Amérique ou un enfant d'Europe, un enfant bien doué ou un enfant arriéré, cet enfant est un enfant d'homme. Avant d'être un homme civilisé, j'espère du moins l'être, et un Français élevé dans les cercles intellectuels de Paris, je suis un homme. S'il est vrai, d'autre part, que notre premier devoir, selon le mot profond qui n'est pas de Nietzsche mais de Pindare, est de devenir ce que nous sommes, rien n'est plus important pour chacun de nous, et rien n'est plus difficile que de devenir un homme. Ainsi, la tâche principale de l'éducation est avant tout d'aider au développement dynamique par lequel l'homme se forme lui-même à être un homme, autrement dit, de préparer l'enfant et l'adolescent à s'instruire pendant toute sa vie. Texte éminent qui repose sur des concepts philosophiques. Le premier, c'est la différence entre paramètres déterminants et paramètres conditionnants. Vous l'avez dans le début du texte quand il dit « former un enfant déterminé appartenant à une nation donnée ». Avec « enfant déterminé », on a finalement l'unicité de l'enfant, c'est-à-dire de l'homme, la vocation d'un homme qui est unique de tout temps et pour toute éternité. Et puis, nation donnée, qui va être développée avec moment historique donné, milieu social donné. Dans cette donation, cette précision, c'est finalement le repérage spatio-temporel. On est à un moment de l'histoire, sur un tel point du globe, et ce paramètre est conditionnant. L'apport de Maritain, déjà développé dans des textes de la période interbellique, de l'entre-deux-guerres, c'est que finalement, le couple nature et culture n'est pas un couple très opératoire, puisque la nature de l'homme, c'est d'être civilisé. C'est plutôt le couple pêcheur-sauvé. On est dans une dimension chrétienne, et finalement, c'est à partir de son écrit de 1924, les trois réformateurs, je rappelle qu'il s'agit de Luther, Descartes et Rousseau, qu'il va développer finalement davantage cette dualité entre le pêcheur-sauvé à la place de nature et culture, puisque c'est le thème rousseauiste de la nature et de la culture qui va accuser cette différence au profit finalement de ce que Maritain appelle le saint laïque. Rousseau va développer ce couple nature-culture qui est parallèle finalement avec celui du bonheur, la notion de bonheur éclipsant celle de salut. C'est dans ce contexte philosophique qu'on peut comprendre donc comment Maritain va appliquer le paramètre du facteur déterminant et celui du facteur conditionnant à l'éducation, l'éducation ayant pour but d'éveiller la liberté humaine pour que la personne, dans son unicité, puisse vivre avec d'autres. Parce que pour Maritain, le régime de la démocratie est le meilleur, qui permet cet avènement du moi dans l'exercice de sa liberté en vue du bien commun. Nous entrons dans le détail du texte tout de suite.
Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
L'homme n'est pas seulement un animal de nature, comme l'ours ou comme l'alouette. C'est aussi un animal de culture, dont l'espèce ne peut subsister qu'avec le développement de la société et de la civilisation. C'est un animal historique. D'où la multiplicité des types culturels ou éthico-historiques qui diversifient l'humanité. D'où également l'importance de l'éducation. À cause du fait même qu'il est doué d'un pouvoir de connaître qui est illimité et qui doit cependant avancer pas à pas, l'homme ne peut progresser dans sa propre vie spécifique, à la fois intellectuellement et moralement, que s'il est aidé par l'expérience collective que les générations précédentes ont accumulée et conservée et par une transmission régulière des connaissances acquises. Afin d'atteindre cette liberté dans laquelle il se détermine lui-même et pour laquelle il est fait, il a besoin d'une discipline et d'une tradition qui tout à la fois pèseront lourdement sur lui et le fortifieront de manière à le rendre capable de lutter contre elle, ce qui enrichira cette tradition elle-même, et la tradition enrichie rendra possible de nouveaux combats et ainsi de suite. Ce texte suit le texte par lequel j'ai ouvert le recueil pour une philosophie de l'éducation de Jacques Maritain, recueil puisqu'il s'agit d'une compilation de plusieurs textes antérieurs. Dans ce texte, vous le voyez bien, il ne s'agit plus d'opposer nature et culture, mais plutôt paramètres déterminants et paramètres conditionnants. L'homme est un animal historique, il s'intègre dans une histoire, mais il a une mission, un dessein, une vocation, une unicité qui permet de transcender cette histoire. Autrement dit, il y a une communication possible des cultures. Souvent, on parle d'incommunicabilité des cultures, on veut remettre en cause, par exemple, les droits de l'homme sous prétexte que c'est l'Occident qui les a promus et pas l'Orient, et que finalement, on ne fait pas droit à telle pensée, telle pensée. Vous avez tout un procès actuellement qui est fait au Logos, à l'homme occidental, finalement le colon blanc étant le présupposé implicite à ce procès, au profit d'autres dimensions humaines qui ne sont pas négligées, mais qu'il faut peut-être rééquilibrer ou revoir avec le vis-à-vis du logos qui est quand même l'intelligence en commun avec Dieu et avec les anges. Dans la philosophie réaliste, en effet, on a en commun cette âme. Pour Aristote, il y a l'âme végétative pour l'inanimé, l'âme sensible pour l'animé, le vivant, et l'âme intellective. Et Thomas d'Aquin reprendra cette âme intellective que l'homme en partage avec les créatures qui n'ont pas de corps, à savoir les anges, les séraphins, les chérubins. Et c'est dans cette vision-là, finalement, qu'on a le substantif « âme », et l'adjectif qui vient qualifier les différentes familles de vivants. C'est à partir de cette compréhension finalement de l'âme et finalement d'un corps fait pour l'âme dans le cadre de l'être humain que nous pouvons comprendre l'éducation de Jacques Maritain. La fin du texte que je viens de lire parle de la liberté. Et on le voit, la liberté n'est pas acquise. Elle n'est pas donnée, elle est à conquérir, à acquérir. Et pour Maritain, en philosophie politique, la grande erreur finalement de la démocratie, c'est qu'elle conçoit la liberté comme un acquis. Et pour lui, c'est une confusion entre liberté et indépendance. La liberté est à construire, elle est à acquérir, et donc elle suppose que chacun des citoyens, donc chaque homme, s'oriente vers le bien commun, ce qui nécessite l'éducation. Troisième point du texte que je viens de lire, c'est l'inscription dans la tradition. C'est-à-dire que l'éducation, elle vient dans une culture, donc dans un héritage contre lequel on peut se lever ou avec lequel on peut travailler et qu'on peut enrichir ou appauvrir. Toujours est-il qu'il y a un dialogue. La tabula rasa, au nom d'une autre dimension humaine qu'on viendrait de découvrir dans les 20 dernières années, est dangereuse, selon Maritain, De même que les textes qu'il écrit juste avant la Deuxième Guerre mondiale, voire pendant, mettent en perspective finalement l'irrationalisme et les totalitarismes. C'est parce qu'il y a un défaut d'intelligence que la partie irrationnelle a pu générer les totalitarismes. Et c'est très important pour Maritain de revenir à l'intelligence avec les différentes hiérarchies, les différentes zone de l'être humain dans une anthropologie selon laquelle on part de l'extérieur vers l'intérieur avec les sens qui nous mettent en relation avec l'extérieur, les sens internes et puis la capacité à conceptualiser qui est intérieure. Le texte donc de pour une philosophie de l'éducation s'ouvre sur finalement une comptabilité des erreurs. Et la première erreur que pointe Maritain s'intitule « La méconnaissance des fins ». Non seulement on peut méconnaître la fin, mais on peut la confondre avec les moyens. Avant de passer à un autre plan plus pragmatique, je vous lis ce texte qui rappelle que l'éducation est un art particulièrement difficile. Elle appartient par sa nature même au domaine de la morale et de la sagesse pratique, c'est-à-dire au plan pratique. Il y a deux plans, l'agibilé et le factibilé. Le factibilé, c'est l'art. Et nous sommes ici dans le plan pratique de l'agibilé. L'éducation est un art moral. Or, tout art est une poussée dynamique vers un objet à réaliser qui est le but de cet art. Il n'y a pas d'art sans finalité. La vitalité même de l'art est l'énergie avec laquelle il tend vers sa fin sans s'arrêter à aucun stade intermédiaire. Nous reviendrons sur le rapport entre éducation et pédagogie.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pédagogie et éducation. On croirait lire dans ces pages de 1969 de Jacques Maritain une véritable critique de la pédagogie actuelle. Voici. D'où la faiblesse surprenante de l'éducation actuelle. Faiblesse qui procède de notre attachement à la perfection même de nos moyens et méthodes d'éducation et de notre impuissance à plier à leur fin ces moyens et méthodes. L'enfant est si bien testé et observé, ses besoins sont si bien détaillés, sa psychologie si clairement découpée, les méthodes pour lui rendre partout tout facile sont si perfectionnées que la fin de toutes ces améliorations si appréciables court le risque d'être oubliée ou méconnue. Je parle de mon expérience personnelle, issue d'une famille d'enseignants. Mon arrière-grand-père est un des premiers instituteurs de la Troisième République. Mon grand-père est un professeur éminent. Mon père, à Toulouse-le-Mirail, un professeur très apprécié, vice-président. Ma mère, n'en parlons pas. Elle a fait des générations de physiciens et de scientifiques, mes oncles et mes tantes. Eh bien, dans la maison, on se transmettait comment la passion du métier. Par deux aphorismes. Le premier, élever un enfant, c'est l'élever à ses propres yeux. Peut-être Maritain pourrait-il s'y retrouver. Et le deuxième, il va bien vous faire rire, surtout ne préparez pas vos cours, lisez. Ça ne veut pas dire que mes parents ne préparaient pas leurs cours. Ça veut dire qu'ils se cultivaient, qu'ils passaient leurs vacances à lire, à aller de congrès en colloque, à faire des articles, à se former aussi bien sur le plan spirituel par des retraites que sur le plan intellectuel par des sessions à Chantilly avec Jean Greige, Paul Ricoeur, Lévinas. Et cet humus leur permettait de garder en tête la visée, la fin, la finalité, au-delà même du recyclage permanent qui doit être celui d'un professeur. Ce n'est pas un enseignant, c'est un professeur, celui qui professe une parole. C'est un métier oratoire et on ne peut pas être orateur si on n'a pas un humus, parce qu'il y a une part finalement de concert, de théâtre. ou de prestations artistiques dans tout cours, voire dans toute émission de radio. Il y a une dimension oratoire qu'on ne peut pas faire si on n'a pas cet humus. Ce n'est pas la pédagogie qui nous fera toucher l'autre. Je ne pense pas que Socrate avait une pédagogie, sinon son ironie. Mais la maïeutique socratique s'appuie sur une intelligence qui a une finalité et non sur une pédagogie besogneuse. Après cette première erreur de l'oubli de la fin, Maritain en pointe une dizaine. Je ne vais pas passer toutes les émissions à les hiérarchiser, mais je vais en relever quelques-unes, en particulier l'idée scientifique et l'idée philosophico-religieuse de l'homme, parce qu'elle me paraît très actuelle. L'idée philosophico-religieuse de l'homme est une idée ontologique. Elle n'est pas entièrement vérifiable dans l'expérience des sens, bien qu'elle possède des critères et des preuves qui lui sont propres. Et elle porte sur les caractères essentiels et intrinsèques, quoique ni visibles ni tangibles, et sur la densité intelligible de cet être qui a pour nom l'homme. Il est évident que l'idée purement scientifique de l'homme peut nous fournir des informations inestimables et toujours renouvelées en ce qui concerne les moyens et les instruments de l'éducation, mais elle ne peut fournir elle-même ni les premiers fondements, ni les directions primordiales de l'éducation, car l'éducation a besoin de connaître d'abord et primordialement ce que l'homme est, quelle est la nature de l'homme et quelle échelle de valeur elle implique essentiellement. Et l'idée purement scientifique de l'homme, parce qu'elle ignore l'être comme tel, ne connaît pas de telles choses, mais seulement ce qui émerge de l'être humain dans le domaine de l'observation sensorielle et de la mesure. Voilà l'exemple que donne Maritain. Les jeunes Pierre, Paul ou Jacques, qui sont les sujets de l'éducation, ne sont pas seulement un ensemble de phénomènes physiques, biologiques et psychologiques, dont la connaissance est d'ailleurs requise et de tout point nécessaire. Ce sont des enfants d'hommes. Ce nom d'homme, désignant pour le sens commun des parents, des éducateurs et de la société, le même mystère ontologique qu'il représente pour la connaissance rationnelle des philosophes et des théologiens. On voit ici un appel à une notion philosophique que nous avons vue en philosophie spéculative, celle du sens commun. Le sens commun n'est pas à écarter, il n'est pas la fine pointe de l'approche spéculative, mais il a déjà une vérité. Et ici, ce sens commun permet un dénominateur commun à tout le monde, les éducateurs, les philosophes et les théologiens. La notion d'homme est ontologique. Ce n'est pas une mécanisation de l'homme qui actuellement tendrait à nous faire croire que nous ne sommes qu'une mécanique capable d'avoir un virus ou de ne pas l'avoir, de porter un masque ou de ne pas l'avoir. C'est le danger, finalement, de l'éducation qui s'attache trop à l'empirisme, à la science, à l'observable. Et finalement, un contenu qu'on va pouvoir véhiculer par des zooms et sans faire attention à la dimension performative de la présence, de l'oralité, qui est lié à cette dimension ontologique de l'homme. On ne peut pas envisager l'enseignement comme une machine à distribuer, ce qu'on fait actuellement comme on peut avec les zooms, mais il faut rapidement que cela cesse, car il y va de cette perception de l'ontologie de l'homme. Comment conclure cette première émission ? Eh bien, par deux notions centrales de Maritain, celle de centre intérieur et celle de personnalité. Pour le centre intérieur, c'est dans le texte de 1969 pour une philosophie de l'éducation qu'on trouve cette citation. Pour faire un homme civilisé, ce qui importe avant tout, c'est le centre intérieur, la source vivante de la conscience personnelle où prennent naissance à la fois l'idéalisme et la générosité, le sens de la loi et le sens de l'amitié, le respect d'autrui et en même temps une indépendance fermement enracinée à l'égard de l'opinion commune. À la semaine prochaine pour la liberté.